Bonjour à chacun. Que faire lorsque les circonstances ou nos expériences contredisent, ou semblent contredire en tout cas, les promesses de Dieu? Il y a de fait parfois, voire souvent, à première vue en tout cas, une certaine contradiction, voire une contradiction certaine, entre la parole et les événements. Qui n'a jamais ressenti cela? Personne? Ben moi si. Il m'est déjà arrivé de faire ce genre de constat. Est-ce qu'on choque en disant cela? C'est vrai qu'on pourrait croire que ce genre de pensée est à proscrire, et de fait, fait très mauvais genre pour un chrétien. Penser cela, c'est vraiment manquer de foi, et faire preuve d'aveuglement spirituel peut-être. C'est ne pas réussir à voir la main de Dieu agissante en se focalisant trop sur les circonstances. Et on pourrait aussi parfois être assez prompt à juger, avec un peu de dédain peut-être, l'autre qui serait dans un tel questionnement. Qui n'a jamais pensé cela aussi? Personne non plus, bon, ça va. Moi si, il m'est arrivé déjà de me faire ce genre de remarques. On ne le dit pas à l'autre, mais on le pense quand même. Que faire lorsque les circonstances contredisent les promesses de Dieu? Et qui n'a alors jamais pensé être oublié de Dieu? Et de fait, c'est la Bible elle-même qui relate ce genre de questionnement. Oui, la parole nous rapporte des dilemmes de certaines personnes qui sont désemparées, ou en tout cas troublées, ou au minima assez perplexes par ce qu'elles voient ou vivent, qui est de toute évidence contraire à ce à quoi Dieu s'est engagé. Et je vous invite à parcourir un exemple ce matin dans le psaume 89. Psaume 89 qu'on lira à partir du verset 18, qui est peut-être le verset 19 selon vos traductions, ça dépend. Psaume 89, verset 18, dans la version seconde. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élevera par mon nom. J'étendrai jusqu'à la mer sa domination, j'établirai son empire jusque sur les fleuves. Lui, il m'invoquera en disant, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités, mais je ne lui retirerai pas ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai jamais mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel et fidèle. Belle promesse, n'est-ce pas? Quel engagement de la part de Dieu. La base de cette partie du psaume est une prophétie qu'on trouve dans 2 Samuel au chapitre 7. On va va pas la lire ce matin, vous pourrez la reconsidérer chez vous. Parole de Dieu transmise au roi David par le prophète Nathan. L'essentiel est la promesse d'un trône que devra toujours occuper la dynastie de David. Et des honneurs uniques dont sera comblé son occupant pour toute l'éternité. Bon, je ne résiste quand même pas à l'envie de lire un verset de ce passage, 2 Samuel chapitre 7 verset 15. Parole de Dieu transmise par un prophète. J'établirai à toujours le trône de son royaume, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Promesse de dynastie royale pour toujours. Et c'est déjà une promesse magnifique. Mais pour moi, la partie la plus merveilleuse dans ce verset est peut-être la promesse de la deuxième partie du verset. Je n'avais jamais noté auparavant. Moi, je croyais que seul Jésus, en tout cas c'était Jésus qui le premier, avait eu ce privilège d'être désigné par Dieu comme étant son fils. Mais non. David, qui est pourtant peu de chose en comparaison de Jésus, David lui aussi a eu ce privilège 1000 ans auparavant. Dieu, père de David, David, fils de Dieu. Et nous avons aussi d'ailleurs, nous aussi, ce privilège magnifique, ce lien filial extraordinaire. Nous sommes filles et fils adoptifs de Dieu notre Père, si nous avons accepté la grâce du salut par Jésus-Christ. On a déjà eu l'occasion de le rappeler ces derniers temps. Mais j'espère que considérer cela vous fait du bien, vous réjouit. Le psalmiste, en tout cas, n'a pas oublié cette promesse. Il la mentionne au verset 26 de notre passage. L'Éternel ne violera pas son alliance, il ne changera pas d'avis, il a juré par son nom pour toujours. Même si les descendants de David s'en rebellent, la promesse d'avoir toujours un roi est une certitude. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Ouf, oui, ouf. On peut toujours faire pleinement confiance à Dieu. Et pourtant, tout d'un coup, le ton change radicalement dans ce psaume. Ce qui se passe, le cours historique des événements, est en contradiction totale avec la promesse. Et ce dont le psalmiste est témoin s'oppose de façon flagrante à l'engagement de Dieu. Et alors il écrit dans les versets suivants, à partir du verset 38, « Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dédaigné l'alliance faite avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses, tous les passants le dépouillent, il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône par terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as humilié. » Sévère verset. Dieu a apparemment quand même changé d'avis. L'alliance a volé en éclats, la promesse n'a pas tenu. On peut toujours dire que ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des hommes, ils ont été rebelles. Mais il avait quand même dit que ça ne remettra pas en cause sa promesse. Il avait dit que rien ne pourrait la remettre en cause. Et pourtant, force est de constater que c'est, semble-t-il, le cas. Et le psalmiste est pour le moins troublé, ne semble pas comprendre pourquoi Dieu permet-il des choses qui sont contraires à ses engagements. Pourquoi Dieu permet-il des choses qui sont contraires à son engagement? Réalité contre promesse? On ne sait pas exactement quand a été écrit ce psaume. Il y a de fait un certain nombre d'hypothèses émises par les spécialistes. Nous savons que les psaumes ont été écrits sur une période de 1000 à 1200 ans environ, Le plus ancien, c'est le psaume 90, juste après le nôtre. Il a été écrit par Moïse, sûrement en moins 1500 ou entre moins 1500 et 1600 avant Jésus-Christ, selon les datations. Et le plus récent a été écrit après le retour d'exil de Babylone, dans les années moins 400 avant Jésus-Christ. Il y a donc de la marge. Et c'est pas facile de dire la date d'un psaume, de l'écriture d'un psaume, car ils ne sont pas du tout classés de manière chronologique. Ils ont fait l'objet d'un travail éditorial, d'un certain classement. Et les psaumes sont regroupés en 5 livres par les éditeurs de l'époque. Et ce psaume 89 est le dernier du 3e livre. Il a été mis en conclusion de cette partie-là. On ne sait pas exactement quand il a été écrit. Certains pensent qu'il a été composé dans les premières années du règne du roi Roboam, le fils de Salomon, vers 920 avant Jésus-Christ, au lendemain de grands désastres qui frappèrent déjà à ce moment-là le royaume. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire. Après le règne du roi David, un homme selon le cœur de Dieu, comme l'Éternel lui-même se plaisait à le dire, un homme à qui Dieu a fait de très grandes promesses, comme on vient de les lire dans les versets 20 à 37 de notre psaume 89. Et c'est son fils Salomon qui a régné à sa suite. Un règne grandiose, un règne d'une très grande richesse, avec un royaume d'Israël qui était alors à son apogée territorial, dominant alentour depuis la mer Méditerranée à l'ouest jusqu'au fleuve de Mésopotamie à l'est, comme souligné au verset 25 de notre passage. Mais comme nous l'avons aussi rappelé semaine dernière, Salomon a détourné son cœur de Dieu, ne l'a plus écouté et a adoré des idoles. Dieu a alors permis la scission du royaume en deux, entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud, gouverné alors par son fils Roboam. Et je lis quelques versets à ce sujet dans 1 Roi, chapitre 14, à partir du verset 21. 1 Roi 14, à partir du verset 21. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles, sur toute commune élevée et sous tout arbre vert. Il y avait même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, Tichak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Les promesses faites à David concernant son règne et sa descendance ont engendré à juste titre de grandes espérances. Mais moins de 50 ans plus tard, tout est déjà bien compromis. On peut comprendre quelle impression de découragement et d'abandon a dû produire l'invasion du roi d'Égypte sur les hommes qui avaient vu la grandeur et la richesse des règnes de David et de Salomon. Forteresse détruite, temple et palais royal pillés de tous leurs trésors, de leurs belles richesses. Certains pensent ainsi que l'auteur du psaume est un des rares sages restés fidèles à Dieu parmi la cour du roi Roboam. Peut-être. Moi je pense plutôt comme d'autres commentateurs pour une écriture plus tardive de ce psaume. Et même si les événements sous Roboam ont certainement été dramatiques et difficiles à vivre pour beaucoup, il me semble cependant conforme aux avertissements faits par l'Éternel dans le cas où le descendant de David ne marche pas conformément au commandement de Dieu, comme rappelé au verset 30 à 33 de notre psaume 89. Ainsi, certains ont pensé plutôt au contexte d'une autre crise nationale qui a eu lieu après la mort du roi Josias, en 610 avant Jésus-Christ, donc 300 ans plus tard. Josias, un roi fidèle à l'Éternel, mais qui est pourtant mort subitement, Dieu l'a permis dans une bataille encore contre l'Égypte. Et là, c'est en 2 Rois, chapitre 23, à partir du verset 25. 2 Rois 23, à partir du verset 25. Avant Josias, il n'y eut plus point de roi comme lui qui revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Manassé, c'était le grand-père de Josias. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël. Et je jetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » Et verset 29, « De son temps, Pharaon, Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. J'ôterai aussi Juda devant ma face comme j'ai ôté Israël et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit « Là sera mon nom ». Que faire lorsque les événements contredisent les anciennes promesses de Dieu ? Ou pire ? Quand Dieu exprime carrément quelque chose qui semble montrer qu'il a changé d'avis, pas facile, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est aussi dans la Bible. Et on peut s'étonner de la décision de l'Éternel en la matière. Josias s'était engagé sans réserve pour Dieu, nous disent ces versets. Et pourtant, ça n'a pas suffi à apaiser la colère de Dieu à cause de ses ancêtres. C'est dur, non? Oui, mais c'est pourtant aussi conforme à d'autres mises en garde de Dieu que nous n'avons pas le temps de reprendre ce matin. Mais on peut en tout cas comprendre là aussi le désarroi de l'entourage de Josias, entourage parmi lequel quelqu'un aurait pu écrire ce psaume. Ou peut-être que c'était encore quelques années plus tard, car le fils aîné de Josias, désobéissant à Dieu, lui, a aussi été déporté en Égypte, comme le rapporte le prophète Jérémie, en Jérémie 22, verset 10. « Ne pleurez pas sur le roi qui est mort. » Là, on parle de Josias. « Ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez plutôt sur celui qui s'en va, parce qu'il ne reviendra pas. Il ne reverra plus la terre où il est né. Car voici ce que dit le Seigneur contre Shalum, fils de Josias, roi de Juda, qui était devenu roi à la place de Josias, son père, et qui a quitté ce lieu. » Il n'y reviendra plus, mais il mourra dans le lieu où il a été exilé. Il ne reverra plus ce pays. Que faire lorsque les circonstances contredisent les promesses de Dieu? Il faut se mettre à la place de ceux qui comptaient sur ces promesses faites à la maison de David et qui voyaient alors sa lignée, cette dynastie s'éteindre. Quelque chose à la fois compréhensible, vu tous les terribles péchés accumulés, mais aussi quelque chose d'incompréhensible, vu les promesses de Dieu. Et encore pire, quelques années plus tard, en 587 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, chef de l'Empire babylonien, détruit Jérusalem, détruit le temple et déporte une très large partie de la population. Le roi Joachim, qui était descendant direct de David, mourut déporté à Babylone. Sédécias, son oncle, que Nebuchadnezzar avait mis en place, eut les yeux crevés après s'être rebellé. Tous ses fils furent tués devant lui. Le psaume a peut-être été composé pendant ce temps d'exil. Alors que dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, on avait assisté à des changements réguliers de dynastie, des rois assassinés, suicidés, tués, déportés. Le royaume du Nord avait déjà disparu 150 ans auparavant. Au sud, dans le royaume de Juda, pendant 5 siècles, la dynastie de David s'était maintenue contre vents et marées. Mais à présent, la fin du royaume de Juda est aussi arrivée. Fin du royaume de Juda, plus de descendants de David sur le trône, car plus de trône du tout, plus de pays, plus beaucoup de juifs sur place, car tous exilés de force, et d'autres populations déportées, d'ailleurs par les Babyloniens, viennent en Judée pour les remplacer. C'est la fin. Terribles événements, terribles moments. Mais alors, qu'en est-il de ces promesses de Dieu ? De toute évidence, le psalmiste ne sait plus trop quoi penser, et il y a effectivement de quoi être dérouté. Peut-on encore s'accrocher à ces promesses, à cet engagement de Dieu ? J'ai volontairement fait un long questionnement sur quand dater ce psaume pour dresser le sombre tableau de la situation, du contexte qui est allé en empirant et en empirant et en empirant. Mais ça me semblait nécessaire d'insister là-dessus pour bien se mettre dans la situation et dans l'état d'esprit probable de l'auteur du psaume. Changement radical, verset 38. Le présent contredit toutes les promesses solennelles de l'Éternel qu'il vient de rappeler dans les versets précédents. Dans une plainte qui se démarque de manière impressionnante des versets précédents, l'auteur reproche à Dieu ses actions qui sont en contradiction avec ses promesses antérieures. Et cette fois, le psalmiste répète l'accusation « Tu as ceci ou cela. Dieu, tu as rejeté, tu as repoussé, tu as dédaigné l'alliance et tu as abattu, tu as profané la couronne. Toute protection est brisée, tout est en ruine, pillé, humilié. » Les mots sont durs contre Dieu, n'est-ce pas ? Est-ce que vous oseriez vous plaindre ainsi à Dieu ? Les mots sont forts, comme c'est dans la Bible. J'en déduis qu'on a le droit, parfois, dans certaines circonstances, de crier ce genre de choses à Dieu. Incompréhension, révolte intérieure peut-être. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Et tes promesses, tu en fais quoi ? Ton alliance, l'as-tu oubliée ? Mais tu avais pourtant juré que tu ne l'oublierais jamais. Par ton nom, tu l'as juré. Moi, ça m'interpelle vraiment, ce genre de paroles lancées à Dieu. Il en faut du coulot, de la rage ou du désespoir. Je ne sais pas exactement, tout cela peut-être, pour oser crier ça à Dieu. Je me trompe peut-être, mais j'aime aussi voir chez le psalmiste, ou en tout cas chez ceux qui ont peut-être remanié ce psaume pour éditer le recueil du psautier un peu plus tard, j'aime y voir une grande connaissance de Dieu, en tout cas une grande intimité, telle que l'on peut alors oser mettre Dieu face à ses responsabilités. Une telle intimité que l'on peut, comme Abraham, qui osait marchander avec Dieu pour sauver Sodome, moi j'aurais jamais eu cette audace, cette confiance. Ou comme Moïse, qui osait contredire Dieu pour défendre ce peuple indocile qu'était déjà Israël dès sa sortie d'Égypte. Moi, j'aurais sûrement pas eu cette audace ou cette confiance. Ou comme David, fils de Dieu, qui osait dire tous ses tourments à son père, comme bon nombre de psaumes l'expriment aussi. Moi, je n'ai pas souvent cette audace ou cette confiance pour épancher mon cœur ainsi devant lui, devant Dieu. Quelle est notre intimité avec Dieu ? Quelle est notre connaissance personnelle de lui ? Et qu'est-ce que nous nous permettons de lui dire ? Sommes-nous totalement libres et ouverts, sans mauvaise retenue ou autocensure ? Nous permettons-nous de lui crier tout ce qui nous préoccupe, nous gêne, nous ébranle ? Je me rends compte que je vous jette plein de questions comme ça à la figure sans trouver vraiment de réponse. Pas toujours facile, n'est-ce pas ? Notre éducation peut nous restreindre. le formatage de notre Église peut aussi des fois nous retenir. Ou peut-être abandonnons-nous beaucoup plus vite que cela. Peut-être que dans la situation du psalmiste, nous aurions, entre guillemets, déjà perdu la foi depuis bien longtemps. Et nous n'aurions nous-mêmes pas pu adresser à Dieu ce genre de propos. Pas facile, pas facile. Pourtant, nous pouvons, oui, ce psaume le montre, nous pouvons tout dire à Dieu. Nous pouvons tout dire à notre Père. Et ce passage le prouve. Ah, les psaumes. En général, on aime un certain nombre de versets que l'on trouve dans les psaumes. Et il y en a absolument des fabuleux. Plusieurs courts psaumes aussi sont magnifiques également. Mais à titre personnel, je dois reconnaître qu'il y a aussi beaucoup de psaumes qui sont bien difficiles à approcher ou à s'approprier. Des choses très fortes y sont écrites. Beaucoup sont dans leur ensemble assez déroutants et difficiles à saisir, passant parfois, comme ici, de l'exaltation la plus belle à la dépression la plus forte. Ça fait le yo-yo émotionnel. En tout cas, il n'y a pas de langue de bois, ni sur soi, ni sur les ennemis, ni sur ce qui se passe, ni même sur Dieu. Je l'ai souligné déjà, quelle audace en particulier d'oser dire tout ça à Dieu. Quelle audace en particulier d'oser dire tout ça à Dieu. Mais avec un peu de recul, moi, je me suis dit aussi, mais quelle audace de la part de Dieu d'avoir voulu aussi nous les transmettre dans sa parole. Quelle audace de la part de Dieu d'avoir voulu nous les transmettre dans sa parole. Et je vous laisserai méditer là-dessus aussi. Psaume 89, problème du cours des événements qui remet en question les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a déjà faites. Il y a une tension pénible ici dans notre psaume, un problème sans solution, une question sans réponse. Très très frustrant. Et pourtant, l'esprit du psaume est humble et jamais amer. Au lieu de railler la promesse, de la rationaliser ou de tout balancer, d'exploser en colère ou en désespoir, le psalmiste fait face à la contradiction entre la parole et les événements. Et là on va lire dans la dernière partie, en adressant finalement une ardente prière d'intercession. Il demande à Dieu de montrer son bras. Que faire lorsque nos expériences contredisent les promesses de Dieu? La réponse de ce psaume est « Transformons les promesses en prières et exposons-les à Dieu. Attendons-nous à Lui. » Que faire lorsque nos expériences contredisent les promesses de Dieu? La seule réponse de ce psaume est de transformer ces promesses en prières, de les exposer à Dieu et de nous attendre à Lui. Verset 46, « Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu et laisseras-tu flamber ton indignation ? Souviens-toi, ma vie est courte. As-tu donc créé pour le néant tous les hommes ? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort ? Qui puisse sauver son âme du séjour de mort ? Où sont, Seigneur, tes bontés premières ? Que dans ta fidélité, tu avais promise par un serment à David ? Pense, Seigneur, à la honte de tes serviteurs et pense à ces nombreux peuples dont je suis chargé. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Ça vous satisfait ce genre de fin et ce genre de réponse ? On pourrait plutôt croire que c'est plutôt une non-réponse. Et c'est pas évident, n'est-ce pas? En tout cas, le psalmiste, lui, ne verra jamais de réponse historique à ses questions. Il ne verra pas sa prière exaucée. Peut-être est-il mort en exil, peut-être est-il revenu en Judée après l'exil, mais en tout cas, la monarchie n'a jamais été restaurée. Le royaume de Juda ou d'Israël n'a plus jamais réexisté. Il n'y a jamais plus de roi, descendant de David ou non d'ailleurs, sur le trône terrestre d'Israël. Le présent est très sombre et la situation semble désespérée. C'est le moment pour la foi éprouvée mais indéfectible du psalmiste, de célébrer les bontés et les faveurs de Yahvé envers Israël et son roi, c'est le moment de prier, c'est le moment de bénir l'Éternel. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen, amen, dit le dernier verset. Sans doute après un moment de silence, la fin du psaume et la louange dans l'anticipation de la grâce de Dieu. La louange dans l'anticipation de la grâce de Dieu. Moi, je trouve ça plutôt difficile et plutôt frustrant comme réponse de la part de Dieu. Arrivons-nous à le faire aussi? Le psalmiste ne verra jamais de réponse à ses questions. Il ne verra pas sa prière exaucée. J'espère cependant, et je pense que c'est le cas sur la base d'autres promesses de Dieu, que Dieu lui a néanmoins donné la paix en lui disant « Fais-moi confiance, fais-moi confiance ». Mais lui, il ne verra pas de visu le roi à venir en la personne de Jésus, descendant généalogique de David et roi du royaume des cieux, royaume éternel. Nous, on est quelques milliers d'années plus tard et on voit tout l'accomplissement de la promesse au final. Jésus, effectivement, est devenu roi du peuple de Dieu pour l'éternité, conformément à la promesse de Dieu initiale. Donc cette promesse a bien été honorée, mais il a fallu 400 ou 500 ans à attendre avant que ça ne soit visible. Et comme le Nouveau Testament nous le détaille, 400 ou 500 ans à attendre. Je ne sais pas si j'aurai la patience, moi. Accomplissement tardif, excessivement tardif même, mais assurément accomplissement, qui dépasse de très loin l'attente du psalmiste. Oui, il y a un roi pour l'éternité sur le trône de David. Oui, il y a un roi pour le peuple de Dieu. Dieu n'a absolument pas rejeté son alliance. Dieu n'a absolument pas oublié David. Jamais. Tout au contraire. Et Dieu a bel et bien accompli ses promesses. Mais lui, le psalmiste, n'en verra pas l'accomplissement. En tout cas, ne l'a pas vu pendant sa vie terrestre. Peut-être que nous aussi devons parfois vivre ce genre de choses. Beaucoup de ces promesses sont à croire par la foi plutôt qu'à voir par la vue. Beaucoup de ces promesses sont à croire par la foi plutôt qu'à vivre par la vue. Mais ce n'est pas facile. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a un verset aussi qui dit ces choses un peu du même style. Hébreux 11, chapitre 11, verset 13. Il y a toute une liste de héros de la foi. Et l'auteur de l'Épître dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. » Et le psalmiste est bien aussi bien placé pour le savoir. Mort physiquement, mais vivant spirituellement comme ces héros de la foi, c'est aussi ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qu'il en faut de la foi, de la patience, de la persévérance? Et moi, je suis admiratif. Jacques écrira aussi dans le Nouveau Testament, en Jacques 1, verset 2, « Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Et Paul rajoutera encore en Romains, « Nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. » Si vous êtes dans telle circonstance, on doit s'épauler les uns les autres, se soutenir les uns les autres dans la prière. Que Dieu puisse nous aider à dire « Béni soit à jamais l'Éternel. » Amen, amen. Oui, béni sois-tu Éternel, mais viens vraiment au secours de notre faiblesse et de notre incrédulité. Nous avons tellement besoin de ton soutien. Amen.